Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers pères et frères, chers élèves, chers fidèles, un jour un scribe s'approcha de notre Seigneur et lui demanda quel était le premier de tous les commandements. Jésus lui répondit, « Le premier de tous les commandements, c'est celui-ci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de tout ton esprit. » C'est là le premier commandement. Le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Alors c'est dans l'Évangile selon saint Marc qu'on lit ceci, et dans saint Matthieu, notre Seigneur dit même, à ces deux commandements se rattachent toute la loi et les prophètes. Alors si toute notre vie chrétienne se résume dans ces deux commandements, il est extrêmement important de bien comprendre ce qu'ils signifient. Saint Thomas d'Aquin dit même qu'il n'y a finalement qu'un seul commandement parce que le second, l'amour du prochain, est contenu dans le premier, l'amour de Dieu. En effet, lorsqu'on aime le bon Dieu, on y unit à sa volonté, donc on veut tout ce qu'il veut, donc on voudra pour notre prochain ce que le bon Dieu veut pour notre prochain, c'est-à-dire par-dessus tout Dieu lui-même. Donc finalement, il n'y a qu'un commandement qui est le commandement de l'amour de Dieu et tout le reste en découle. Mais pourquoi est-ce que le premier commandement auquel se rattachent tous les autres, c'est le commandement de l'amour de Dieu ? Eh bien, en créant le monde, le bon Dieu a donné à chaque créature une loi pour lui permettre d'arriver au but pour lequel elle a été créée. Alors, il y a les lois dans le monde minéral, dans le monde végétal, dans le monde animal. Il y a les lois qui gouvernent le mouvement des astres, etc. Eh bien, pour nous, les hommes, la loi qui nous permet d'arriver au but pour lequel nous avons été créés, c'est le premier commandement de l'amour de Dieu. Notre volonté a été créée pour aimer Dieu. Et c'est en aimant Dieu que nous nous acheminons jour après jour vers le but de notre vie, qui est de participer au bonheur infini des trois personnes divines. Alors maintenant, notre Seigneur nous explique comment nous devons aimer Dieu. D'abord, il dit qu'il faut l'aimer de tout notre cœur. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut rien aimer d'autre que le bon Dieu. Mais cela veut dire que l'amour de Dieu doit ordonner toutes nos affections. En d'autres termes, aucun amour, aucune affection ne doit nous détourner de l'amour de Dieu. Ensuite, notre Seigneur dit qu'il faut aimer Dieu de toute notre âme. Saint Thomas d'Aquin explique en disant que cela veut dire même avec notre âme sensible, c'est-à-dire avec nos passions. Depuis, à cause de la blessure du péché originel, eh bien, nos passions sont un peu comme des chevaux sauvages. Alors il faut les canaliser, les régler pour qu'elles ne nous empêchent pas d'aimer le bon Dieu. Voilà, c'est cela. Ensuite, il faut aimer Dieu de tout notre esprit. Qu'est-ce que cela veut dire et pourquoi? Eh bien, si nous aimons notre Seigneur, non seulement nous voudrons lui soumettre notre cœur, nos passions, mais aussi nous voudrons lui soumettre notre intelligence, toutes nos pensées, afin de ne pas contrister notre Seigneur et afin de ne pas nous séparer de lui, qui est la vérité, en vivant dans l'erreur ou dans le mensonge. Enfin, il faut aimer Dieu de toutes nos forces. Cela veut dire qu'il faut lui consacrer toutes nos activités, par amour pour lui. Toutes nos actions de la journée, eh bien, ce sont autant de moyens de prouver à notre Seigneur que nous l'aimons, surtout lorsqu'il y a des sacrifices à faire. Alors vous voyez, la charité englobe tout, le cœur, l'âme et ses passions, l'intelligence, toutes nos actions. Donc en donnant le commandement de la charité, notre Seigneur a bien résumé toute la vie chrétienne. Et cela nous fait comprendre deux choses. D'abord, la morale chrétienne n'est pas une morale de pure obligation. Nous avons dit nos prières, nous avons été à la messe le dimanche, donc nous sommes quittes. Eh bien non. Il faut toujours nous demander avec quel amour de notre Seigneur avons-nous fait tout cela ? Qu'il faut faire, bien sûr, mais avec quel amour de notre Seigneur ? Parce que la morale chrétienne, c'est une morale d'amitié avec Jésus. Je ne vous appellerai plus mes serviteurs, mais mes amis. Bien sûr, dès qu'on est en état de grâce, on a la charité qui donne un mérite surnaturel à toutes nos actions. Mais une amitié, c'est quelque chose qui se vit, qui s'entretient et qui, en s'entretenant, grandit. Il ne suffit pas suffisant pour des amis d'être côte à côte sans se parler. Pour des époux, c'est pareil. Alors, dans notre examen de conscience du soir, nous devrions aussi nous demander combien de fois dans la journée est-ce que j'ai pensé à notre Seigneur ? Combien de fois dans la journée est-ce que j'ai pensé à lui offrir telle action ? Deuxième point, si la morale chrétienne était une morale de pure obligation, une morale de règlement, bien lorsque nous aurions accompli nos devoirs, tout serait fini. On tourne la page. Mais comme c'est une morale d'amitié, eh bien, il y a toujours des progrès à faire. Jamais nous ne pourrons dire « Aujourd'hui, j'ai aimé notre Seigneur suffisamment ». Impossible de dire ça. En résumant toute notre vie chrétienne dans le commandement de la charité, on peut dire que notre Seigneur a ouvert une porte qui donnait sur l'infini. La mesure d'aimer Dieu, c'est de l'aimer sans mesure, dit saint Bernard. Et pour nous inciter à vouloir progresser sans cesse dans l'amour de notre Seigneur, eh bien, n'oublions jamais que notre bonheur dans le ciel sera proportionné à la charité que nous aurons eue pour notre Seigneur dans cette vie. Et c'est parce que les hommes oubliaient dangereusement ce commandement de la charité que notre Seigneur, au XVIIe siècle, s'est manifesté à Paray-le-Monial. Dans la grande apparition de 1673 ou 1674, l'année n'est pas certaine, sainte Marguerite Marie vit le cœur de Jésus, symbole de son amour pour Dieu et pour les âmes. Elle vit ce cœur comme dans un trône de flammes, plus rayonnant qu'un soleil et transparent comme un cristal, avec sa plaie adorable. Il était environné d'une couronne d'épines et surmonté d'une croix. Notre Seigneur venait embraser les âmes du feu de sa charité. Mon Fils, donne-moi ton cœur. Je suis venu apporter le feu sur la terre et mon seul désir est qu'il s'allume. Nous sommes réunis aujourd'hui pour assister aux vœux de religion de trois de nos frères. Eh bien, si l'appel du cœur de Jésus s'adresse à tous les baptisés, la vie religieuse, pour ceux qui en ont la vocation, est le moyen le plus efficace, bien sûr, de répondre à cet appel du cœur de Jésus aux âmes. S'engager à la suite de notre Seigneur par les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, eh bien, c'est rompre tous les liens qui empêchent l'âme de se donner, qui pourraient empêcher l'âme de se donner totalement à l'amour de notre Seigneur. Nous avons besoin de biens matériels pour vivre, bien sûr, mais le danger, c'est de trop y attacher notre cœur. Surtout aujourd'hui où il y a tout le temps de nouvelles choses qui nous sont proposées à acheter pour rendre la vie plus agréable, etc. On finit par oublier notre Seigneur, ce sont les hommes d'aujourd'hui. Alors les religieux, par le vœu de pauvreté, renoncent à posséder personnellement quoi que ce soit, pour être libre d'aimer notre Seigneur de tout leur cœur, sans risquer d'en être détourné par des biens matériels. Il est bien de se marier, notre Seigneur en a même fait un sacrement, mais notre Seigneur demande à quelques-uns de ne pas se marier, parce qu'il les veut tout entiers pour lui. On peut dire que le religieux, le prêtre séculier qui font le vœu de chasteté, eh bien, ont marié leur âme avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayant pas les soucis d'une famille, ils sont désormais libres de répondre à tous les besoins des hommes. Enfin, comme la vie de charité consiste à faire à tout instant la volonté de notre Seigneur, eh bien, les religieux remettent leur volonté entre les mains d'un supérieur qui représente Jésus-Christ. Ainsi, ils sont toujours certains de faire la volonté de notre Seigneur. Alors, quand on a offert ses biens matériels, son propre corps et jusqu'à sa volonté à notre Seigneur Jésus-Christ, on lui appartient totalement. Le religieux ne s'appartient plus, il appartient totalement à Dieu, il lui est consacré comme un calice. C'est la réponse d'amour la plus radicale aux appels du cœur de Jésus. On peut dire que faire des vœux de religion, c'est se consacrer totalement au Sacré-Cœur. Cher frère Alain, Louis Bertrand et Agostinho, bien sûr, vous ne faites ce matin des vœux que pour 3 années, parce que l'Église est prudente et elle préfère attendre un petit peu, enfin, elle préfère qu'on ne s'engage pas trop vite pour toujours, pour toute la vie. Donc, il y a différentes étapes. Mais si les vœux que vous allez faire dans quelques instants n'auront pas le caractère définitif des vœux solennels que vous ferez plus tard, si Dieu veut, eh bien, ils n'en sont pas moins une véritable consécration à notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, on ne fait pas des vœux dans l'abstrait. Dans l'Église, on fait des vœux dans une famille religieuse particulière. Notre Seigneur vous a appelé à faire ses vœux dans l'ordre des frères prêcheurs, dont la devise est Veritas, la vérité. Regarde la barque de ton père Dominique, dit Dieu à Sainte Catherine de Sienne. Il a voulu que ses frères n'eussent point d'autre pensée que mon honneur et le salut des âmes. Il fut lui-même une lumière que je donnais au monde par l'intermédiaire de Marie. Sa mission dans le corps mystique de la Sainte Église fut d'extirper les hérésies. Alors, est-ce que cela nous éloigne du Sacré-Cœur? Est-ce que cela nous éloigne de la charité? Non, puisque pour pouvoir aimer notre Seigneur, il faut que les hommes le connaissent, qu'ils renoncent donc aux erreurs, aux hérésies, pour croire en notre Seigneur Jésus-Christ, seul Sauveur et vrai Dieu. La première charité à faire aux hommes, c'est donc la charité de la vérité. Regardons les œuvres de miséricorde. Vous savez qu'il y a des œuvres de miséricorde corporelles et les œuvres de miséricorde spirituelles. Eh bien, les œuvres de miséricorde spirituelles sont bien sûr plus importantes que les œuvres de miséricorde corporelles. Et la première œuvre de miséricorde spirituelle, eh bien, cela consiste à enseigner les ignorants. Docere ignorantes. Et d'ailleurs, c'est la mission essentielle que notre Seigneur a donnée à ses apôtres. Il leur a dit « Allez enseigner toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. » Alors ça, c'est quelque chose qui est complètement oublié de nos jours. Le pape Benoît XVI a fait toute une encyclique sur la charité. Eh bien, dans cette encyclique, non seulement il ne dit pas que si l'on n'est pas en état de grâce, on n'a pas la charité, et d'autre part, dans cette encyclique, il ne dit pas un seul mot de la charité de la vérité, qui est la plus importante. Et le pape François, dans la même ligne, ne cesse de répéter que le prosélytisme, dit-il, est une pompeuse absurdité et que cela n'a aucun sens. Alors c'est pour pouvoir au contraire apporter aux hommes cette charité de la vérité, chers frères, qu'ayant terminé votre noviciat, vous allez commencer vos études sacerdotales, devenant des frères étudiants. On peut faire une objection. Est-ce qu'il est prudent, dans nos temps si incertains, de s'engager comme cela? Eh bien, si les temps sont incertains du côté des hommes, il est extrêmement prudent, alors, et d'autant plus prudent, de se donner à notre Seigneur Jésus-Christ. Vous vous donnez d'ailleurs au Sacré-Cœur pour mener le seul combat qui a l'assurance de la victoire. Ce cœur régnera malgré Satan et tous ceux qui s'y opposeront. Aujourd'hui, nous fêtons la nativité de la Sainte Vierge. La coïncidence entre vos premiers vœux de religion et cette fête de la naissance de Notre-Dame est tout un programme pour votre vie. Par ces premiers vœux, en effet, vous allez naître à la vie religieuse. Le religieux, c'est celui qui est relié à notre Seigneur par des vœux. Eh bien, naissez aujourd'hui à la vie religieuse avec Notre-Dame. Quand vous serez prosterné, les bras en croix dans le sanctuaire, dans quelques instants, eh bien, donnez-vous totalement à notre Seigneur. Comme Notre-Dame s'est offerte à l'avance, au jour de sa nativité, à tout ce que Dieu voudrait d'elle et lui demanderait dans la suite, même si elle ne le connaissait pas encore, parce qu'il n'y avait pas encore eu l'Annonciation, et elle était dans ses dispositions depuis son Immaculée Conception. Eh bien, dites votre fiat avec elle de tout votre cœur. Cette messe est célébrée pour vous trois, pour vos familles, frère Louis-Bertrand et Agostinho, pour vos familles du Brésil qui nous sont unies en ce moment, au-delà des mers, et puis frère Alain, nous sommes heureux aujourd'hui d'avoir vos parents parmi nous. Et puis cette messe, bien sûr, est offerte pour la communauté, pour les vocations et pour vous tous ici. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.